Voyager à travers le temps et aborder l'histoire de la Côte d'Ivoire, les rapports entre les peuples, les espaces culturels et traditionnels, les relations du pays avec les peuples d'ici et d'ailleurs. Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, les origines à nos jours. Présentation, Jules Coffier-Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Histoire d'ici.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Nous sommes chez le professeur Alukwame René, comme toujours. Mais avant d'aborder le sujet, professeur, je voudrais vous poser une petite question. Un musée dans un pays, qu'est-ce que ça représente? Parce que on parle du tout, mais nous ne parlons pas du musée. Pour les Ivoiriens, pour les jeunes, le musée, c'est quoi?
Oui, il faut dire que le musée, en tant qu'institution, les Africains ne connaissaient pas de musée. Pour une raison très simple. Dans le musée, on met quoi? On met des objets de l'histoire du pays, des éléments culturels du pays. Mais en Afrique, les objets culturels étaient vivants. Parce que quand on s'en met des objets dans un musée, c'est comme si ces objets-là deviennent des objets inactifs. Vous voyez, un masque qui était utilisé, que des gens portaient, se retrouve maintenant dans le musée. S'il est dans le musée, c'est quelqu'un va le porter encore. Plus personne ne le porte. Le musée ne fait pas partie de la culture des Africains. Mais c'est de la culture des Européens. Mais si nous avons décidé d'en tenir compte, c'est parce que le musée rapporte beaucoup d'argent. Souvent, les gens ne comprennent pas cet aspect-là. Il faut que nous, les Africains, on comprenne que ça rapporte énormément d'argent. Il y a des musées qui font l'objet de visites de millions de touristes. Imaginez ce que cela rapporte au pays. C'est pour ça qu'un musée doit être bien entretenu. Il faut que les objets qui y sont soient bien entretenus. Il faut qu'il y ait des personnes, des sachants, qui puissent dire tel objet, voilà l'histoire qui est liée à l'objet. Voilà les événements qui sont liés, disons, à la fabrication de cet objet, etc. Donc, c'est ça, c'est important. Écoutez, même quand l'avion, le Concorde, a fait son dernier vol, moi, aujourd'hui, il y a un musée où vous allez voir, vous partez, vous allez trouver le Concorde là. Les gens peuvent monter, visiter pour voir comment le Concorde était. Le musée rapporte de l'argent. C'est un aspect culturel important d'un pays. Et le musée de l'homme en France, ça fait l'objet de la visite de nombreux touristes. Moi, j'ai vu dernièrement dans les médias les Français se vanter d'avoir reçu près de 10 millions de touristes en une année. Voilà, donc c'est comme ça. On peut faire des musées un peu partout. Pour les masques qui ne se portent plus, pour nos objets, par exemple, je sais qu'il y a un musée à Bassam des pains traditionnels, etc. Donc, c'est des choses, il faut les entretenir. Et quand les touristes les visitent, ou bien même quand les nationaux les visitent, ben, ils donnent quelque chose et ça permet quelque part à ces musées-là d'avoir de l'argent. Et bon, ça peut être des moyens aussi pour financer les faits culturels dans un pays. Voilà un peu l'importance des musées.
Je crois que à Grand Bassam, le musée de costumes est toujours bien conservé. Ça, je le souhaite. Ça va faire vraiment honneur à tous les Ivoiriens de constater que ces choses-là sont conservées. Ah oui, parce que le musée, c'est important dans un pays. Il faut attacher de l'importance. Professeur, et si on parlait du Dankira?
C'est important de parler du Dankira. Pourquoi? Pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, qui sommes Ivoiriens, au sein des peuples de Côte d'Ivoire, des ethnies de Côte d'Ivoire, il y a des éléments d'origine Dankira qui y sont. Quand nous avons parlé des Baoulés, je vous ai dit que les Baoulés à l'Andira sont d'origine Dankira. Les Agbala de Dimboukro, là, ils sont d'origine Dankira. Les Dons de Bende Kwasi Kro, dans la commune de Boaké, là, ils sont des Dankira. Les Gbo, là, pour la plupart, sont des Dankira. Hein? Même ceux qui ont été d'abord le noyau fondateur du peuple sacrifiant, c'est-à-dire des Baoulés sacrifiants, ils sont Dankira. Nana Bekoin, qui était à leur tête, était un guerrier Dankira. Sans compter les Agnis Dankira d'Amiens Kwasi Kro. Même au sein des Agnis Denia, certains éléments étaient d'origine Dankira. Donc, il est bon aussi de remonter un peu dans le passé pour voir comment est-ce que le peuple d'Adjira s'est formé pour que certains de ces éléments se retrouvent au sein de différents groupes ethniques en Côte d'Ivoire. C'est important. C'est pour ça qu'il y a nécessité aussi de parler de d'Adjira. C'est ce que je voudrais dire en introduction. Mais il faut dire que, concernant le Dantira, d'abord, celle qui a été à l'origine du royaume du Dantira, c'est une femme. On l'appelle Ayekra Adebo. Elle est d'un clan qu'on appelle le clan Agona. Quand nous avons fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'émission sur les matriclans à Caen, nous avons parlé du matriclan Agona, qui est appelé Mvaville chez les Nzama. Et donc, Ayekra Adebo est une femme qui a eu l'ambition de créer une chefferie importante. Et c'est elle qui est à l'origine, donc je peux dire, du siège royal du Dantira. Et comme l'un des symboles de ce clan Agona, c'est le palmier. Donc, les porte-cannes, là, ce que en Thieu on appelle les tchamé, ou bien alors en Ayo on appelle les pomafoué, leur canne, là, c'est fait avec le bois de palmier à huile, à cause du symbole de ce clan-là. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de groupes d'origine Dantira vont prendre le nom de Abé. Hein? Les Baoulé Abé de Bokanda, ça vient de là. Ça vient de là. Les Anon Abé, beaucoup sont partis du Dantira. Parce que Abé, c'est le palmier à huile et qui est l'un des symboles de la famille royale du Dantira, qui est le clan Agona. Donc vous voyez que quand on remonte un peu dans le passé, en voyant ces anciens royaumes à Caen là, on comprend mieux aussi, on a une meilleure vision par la suite des populations qui sont venues dans l'actuelle Côte d'Ivoire concernant les Akans. Son clan, les Agona, dans un premier temps, ils ont commencé à s'installer le long d'un fleuve qu'on appelle le fleuve Ofé. Parce que le fleuve Ofé se jette dans le Pra. C'est un affluent du fleuve Pra. Et donc, eux, d'abord, ils étaient sur la rive est du fleuve Ofé. Et petit à petit, ils ont commencé à s'étendre. Mais il faut dire aussi que le Dantira, même en tant que royaume, est né de la formation de plusieurs clans. C'est vrai, le clan royal est Agona. Mais eux aussi, ils ont intégré d'autres clans. Par exemple, le clan Adjana, c'est ce clan-là qui joue le rôle de ce qu'on appelle Djahene. Chez eux, ils disent Djahene. Au lieu de dire Djahene, c'est-à-dire le serviteur du roi, et ils disent Djahene, c'est-à-dire le roi du feu. Dja, c'est le feu. Hene, roi ou chef. Donc, le chef du feu, là, il est du clan Adjana. Il est parti de Assoumenia. Et lui, il a décidé de se mettre au service du roi du Dantira. Donc, c'est lui qui est le Djahene du roi. Maintenant, vous avez le clan Asatré. Par exemple, Essase Bessiasse, cette chefferie-là est dirigée par le clan Asatré. Mais le chef d'état-major de l'armée du Dantira était de ce clan Asatré. D'abord, sur le roi Ampem, quand le Dantira a commencé ses conquêtes, c'était d'abord le chef de Asatré. C'était lui qui était son chef d'état-major. On l'appelait Adja Anansi. Son nom est curieux parce que Adja, ça veut dire père. Et puis, Anansé, c'est le surnom de l'araignée. Anansé, c'est le surnom de l'araignée. D'ailleurs, chez les Tufo, c'est le nom de l'araignée. Mais, chez les Agni, chez les Zema, quand on dit Anansé, hein, on dit Kendeba et Kendeba Anansé. C'est-à-dire, c'est le surnom de l'araignée. Et c'était lui qui était le chef d'état-major. C'est lui qui va mener les troupes d'Ankira à conquérir beaucoup de peuples. Adja Anansé, qui est du clan Asatré. C'est ainsi que Adja Anansé, étant à la tête des troupes d'Antira, ils vont chasser les futurs Agni qui, eux, étaient sur la rive ouest du fleuve Ofé. Donc, c'est ainsi que les Dantira vont s'étendre aussi bien de la rive est à la rive ouest du fleuve Ofé, en chassant alors les futurs Agni qui étaient sur la rive ouest. Ils vont faire, ils vont attaquer l'Asahi, le royaume Asahi, et ils vont vaincre le royaume Asahi. Parce qu'au départ, je l'explique ça, on le verra après, par la suite, il va y avoir trois chefferies ou trois royaumes Asahi. Mais le plus important, c'était le royaume Asahi Uyoso, qui était dirigé par un homme qu'on appelle Obomankoma. Obomankoma, il ne voulait pas se soumettre à la domination du Dantira. Donc quand son territoire a été attaqué par Adjanase et ses troupes, lui, il faisait de la guérilla. Il allait se dissimuler dans des zones où il y avait des collines qui étaient difficiles d'accès et il faisait la guérilla. Mais c'était difficile. C'est quand son neveu lui a succédé, on appelle son neveu Unkwa Okodom. Lui aussi, d'ailleurs, ceux-là, ils sont du clan Asakiri aussi. Mais là-bas, ce clan est appelé Asenkera. C'est Unkwa Okodom qui a sagement accepté de venir devant le roi Boa Aponsem des Dantira pour se soumettre. D'ailleurs, quand il s'est soumis, le roi du Dantira dit « Ah, toi, tu as été sage, tu n'es pas comme ton oncle Obomankoma là, il n'est pas sage. » Et il lui a offert un grand tambour, parce que recevoir un grand tambour, c'est la marque des grandes chefferies, des grands royaumes. C'est pas n'importe quel royaume qui a un grand tambour chez les Akans, voilà. Donc, c'est comme ça. Et Adja Anansé, c'est lui qui va vaincre les futurs chefferies qui vont s'intégrer à la Confédération Ashanti. C'est pour ça que Kwamai était soumis au roi du Dantira. Toutes ces chefferies-là dépendaient au plan de l'autorité du roi du Dantira. Et toutes les chefferies qui faisaient partie de l'espace qu'on appelle la Dansé étaient soumises au roi du Dantira. Parce que le roi du Dantira les avait vécues. Le roi du Dantira a vécu les Adansé. C'est-à-dire que les Adansé eux-mêmes, chaque chefferie était autonome. Mais en cas de guerre, ils formaient une coalition momentanée. Et celui qui détenait un sabre qu'on appelle Afenakwa, c'est lui alors qui était, disons, le chef d'état-major qui conduisait les troupes de la Dansé. Mais les Dantira les ont vécues, ils ont vécu les Adansé. Mais c'est lié à un événement. Ça a été ça aussi l'un des départs de la puissance militaire, je peux dire, du Dantira. Parce que anciennement, toutes les chefferies qui étaient dans la Dansé et tout autour, comme la chefferie d'Ankira, chaque chefferie était autonome. C'est pour ça que dans la Dansé, il y avait leur devise importante qui dit « Adansé, Kotokwa, Kotokwa, Obiara, Danibom ». Et que les Adansé sont comme des crabes. Chaque crabe gère son trou pour dire qu'ils étaient autonomes. Mais il y a eu un chef qui, à un moment donné, c'est lui qui était détenteur de la Fenankwa. Parce que la Fenankwa se transmet de père en fils. Ce sabre de guerre là, ça se transmet de père en fils. Ça ne se transmet pas en ligne maternelle comme on le fait, on le voit pour les sièges. Voilà, ça se transmettait de père en fils. Et c'était le chef qui s'appelait Ehura Bassa. C'était lui qui était alors détenteur du sabre à Fenankwa. Et lui, il voulait que toutes les autres chefferies se soumettent à lui. C'est-à-dire qu'il veut remettre en cause les fondements de la Dansé. Et quand ils ont exigé ça des Dantira, les Dantira ont dit ah non, ah bon, toi Ehura. Regardez Bassa, c'est ce que tu veux faire maintenant? Donc tu veux aller contre notre constitution. Ah, ne pas respecter la constitution, ça crée des problèmes. Il dit, ah bon, donc dans ce qu'on va voir, donc il a fait la guerre et il a vaincu Ehurade Bassa. Mais Ehurade Bassa avait été soutenu par les autres chefferies de la Dansé. Et c'est comme ça que le Dantira les a vaincus. Donc toutes ces chefferies-là se sont retrouvées être des chefferies vassales du Dantira. Donc vous voyez que le roi du Dantira est devenu puissant. Il y a plusieurs chefferies qui sont alors des chefferies vassales qui dépendent de lui. Et vraiment, la puissance du Dantira, je peux dire, a atteint son apogée sous le roi Boa Aponsem. Toutes ces conquêtes-là se sont faites avec le chef d'état-major Adja Anansé. Et d'ailleurs, c'est ainsi que le Wassa a été soumis. Mais au départ, les futurs Agni et Broussa, quand ils ont été chassés de la rive ouest de l'Orfé, ils sont allés dans le territoire Wassa, mais dans la zone qu'on appelait Amanfi. Cette zone a été conquise par les Dantira. Tout le Wassa était sous la domination du roi du Dantira. Et quand même les Agni, futurs Agni, ont quitté le territoire Amanfi et ils sont allés en Ebroussa, ils étaient encore sous la domination du roi des Dantira. Ils étaient sous la domination du roi de Dantira. D'ailleurs, l'un des ancêtres de la famille royale Ndenia d'Abanguru, il était un porte-canne au service du roi du Dantira. On l'appelait Ehouman Cabran. Quand la guerre s'est déclenchée entre le Dantira et la Confédération Ashanti, c'était lui qui était venu voir le roi Anou Assouman pour lui dire « Ah, ton suzerain, le roi du Dantira, m'envoie te demander de donner des troupes auxiliaires. » Et cette fois-ci, le roi Anou Assouman va refuser. D'ailleurs, lui-même, il est de clan Oyoko. Hein, oui, Anou Assouman était de clan Oyoko. Donc, ça veut dire qu'en fait, il était du même clan que la famille royale de l'Ashanti. Il a refusé. Il avait même dit à Ehouman Cabran, écoute, moi, je te conseille de prendre ta famille, ton clan, quitter le Dantira si vous voulez, venez me rejoindre où moi je suis. Et c'est ce qui va se passer. Ehouman Cabran va prendre les membres de sa famille et puis ils vont venir se réfugier en Ebrosa. Territoire Agni Ebrosa, vous voyez. Donc, c'est comme ça que le Dantira est devenu alors une puissance. Là, c'était au XVIIe siècle. Alors que la Ashanti, c'est quand ils ont vaincu le Dantira en 1701, donc au début du XVIIIe siècle, que eux, ils ont commencé à devenir maintenant une puissance montante. Mais durant tout le XVIIe siècle, c'était le Dantira qui était la puissance dominante, qui dominait plusieurs royaumes akan. D'ailleurs, la devise des Dantira dit quoi? La devise des Dantira dit ceci. Dantira, Adaoufo, Adaoufo. Menesono, Menesono. Ça dit que les Dantira, porteurs d'arc ou de flèches mortelles qui avalent l'éléphant. Ils disent que eux là, ils sont porteurs de flèches mortelles et ils avalent l'éléphant. Mais pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent Dantira, Menesono? Pourquoi ils disent ça? Parce que chez les Akan, le symbole de la royauté, c'est aussi l'éléphant. L'éléphant est un animal emblème du roi. Et donc, lui, il dit que les Dantira disent que eux, ils avalent l'éléphant. Donc, cela veut dire qu'ils avalent tous les chefs, tous les rois qui sont autour d'eux. Quelqu'un qui avale un éléphant, hein, c'est ça, c'est une petite affaire. Imaginez la masse de l'éléphant et ils disent que eux, ils avalent l'éléphant. Donc, c'était ça la devise des Dantira. Ah oui. Donc, c'est ainsi que le Dantira a été vraiment un royaume qui a dominé le XVIIe siècle à Caen. C'était ça la réalité. Et donc, Quand finalement, Boaponsam décède, c'est son neveu qu'on appelle Ntim Diakari. C'est Ntim Diakari qui a succédé à Boaponsam. Et c'est Ntim Diakari qui, malheureusement, a perdu la guerre en 1701 face à Osei Tutu. Alors, le Dantira est devenu donc un royaume vassal de l'Ashanti. D'ailleurs, quand je peux dire au 19e siècle, après la bataille contre les Bronze Diamants en 1818, quand Kwadio Etibou a montré, je peux dire, qu'il y a eu une renaissance du Dantira, que son armée recommence à devenir puissante, qu'il a quitté les rives du fleuve Ofin pour venir à Djoukwa, beaucoup plus au sud, c'est là qu'ils ont créé une autre devise pour narguer les Ashanti. Et que disait cette devise-là? Kotoko som aponsem. Kotoko, symbole des Ashanti, est serviteur du roi Bois aponsem. Donc, désormais, les Dantira narguaient les Ashanti pour dire, vous là, votre premier roi dont vous êtes si fier là, il était un serviteur, un esclave au service du roi Bois Aponsem. Voilà. Donc, c'était comme ça. Et si bien que les Dantira sont conscients qu'après la défaite de 1701, nombreux sont leurs frères qui se sont dispersés un peu partout dans le monde akan. Effectivement, ils se sont dispersés dans le monde akan. Quand vous prenez l'histoire des Wassa, il y a des éléments d'origine Dantira qui se sont dispersés là-bas. Il y a certains qui sont partis dans le Zma. Il y a par exemple le village de Ayuebo avec Kaku Bonzo, leurs ancêtres, ceux du village de Ayuebo en pays Zma. Ils sont venus de Dantira après cette défaite-là. Donc, ils se sont dispersés. Hein, sans compter les Baoulé à l'Andira dont j'ai parlé. Si bien que, même aujourd'hui, à la suite de ces événements-là, les Dantira ont créé un tambour spécialement qu'ils appellent Guabra. C'est-à-dire, c'est comme si ceux qui sont installés revenaient, venaient à nouveau. Le tambour s'appelle Guabra. Et quand on joue ce tambour-là, le roi du Dantira dit, « Oh, vous, mon peuple, dispersé du fait de la guerre, prisonnier du fait de la guerre, mis en esclavage du fait de la guerre, dispersé à cause de la guerre, revenez à moi, mon peuple, revenez à moi. » Et quand on joue ça, vraiment, ça touche profondément les Dantira, ils en pleurent. Parce qu'ils voient que leur peuple s'est dispersé un peu partout dans le monde akan après cette défaite de 1701. Et quand on le joue, le roi du Dendira pleure. Parce que c'est pour ça que, par la suite, leur grand, ce qu'on appelle le jurement, je vais expliquer aux auditeurs que le jurement, c'est une courte phrase qu'on trouve dans les royaumes Akan, chez les peuples Akan, qui rappelle un événement douloureux. J'en avais parlé quand on a parlé du royaume Bronze-Diamant, dont le jurement est Mekankpon-Mekante, qui rappelle ces événements douloureux-là. Mais pour eux, traduit, ça veut dire le vendredi du peuple d'Antira. Voilà, parce que c'est un vendredi qu'ils ont perdu la guerre. Donc, leur jurement, ça veut dire le vendredi du peuple d'Antira. Voilà. Et quand on joue le tambour Guabra, c'est vraiment une grande tristesse parce que le roi de Dendira dit, je sais que vous, mon peuple, vous êtes un peu dispersés du fait de la guerre, mais je vous exhorte, je vous demande de revenir à moi. Voilà un peu ce que ce peuple a vécu. Et nous voyons que des éléments de ce peuple sont allés un peu partout. Les futurs fondateurs du royaume Anno, notamment Nana Aluindou, c'est du Dendira, il est parti. Voyez. Le clan Asewe, qui est dans l'Anno Abbé, c'est un clan qui est parti du Dendira. Le clan Aouan, qui est dans l'Anno, eux-mêmes, ils étaient de la famille royale du Dendira. Les Agni Bini de Bini Yakassé, ou Yakassé Bini, mais c'est du Dendira. Nana Asuma Karikari, c'était un guerrier qui est parti du Dendira. Donc vous voyez que les Dendira sont partis d'un peu partout. Le groupe dans le Bronze-Diamant qui est actuellement dirigé par Nana Bibi II, les Pinango, ils sont partis du Dendira. Ouais, ils sont partis du Dendira. Donc cela veut dire que les Dendira formaient un peuple important et nombreux et ils se sont dispersés un peu partout. Mais toujours souvent, ils n'oublient pas leurs origines Dendira. Par exemple, il y a un clan, une famille qui est dans la nuit du Morono, les Kissi Bosofo. Ils se souviennent qu'ils sont d'origine Dendira. Parce que ça a été un peuple nombreux, Akan, qui a dominé tout le 17e siècle. Et eux aussi, ils se sont vraiment dispersés. Ceux, par exemple, qui se sont installés à Amiens, Kwasi Kourou, qu'on appelle les Agni, on les appelle Agni Dendira. Eux, ils ont gardé le nom Agni Dendira. À Binao, vous avez des Alangois, mais les Alangois ne s'étaient pas installés seuls, ils étaient avec leurs compagnons Dendira. Voilà un peu ce que les auditeurs devraient savoir sur vraiment l'importance de ce royaume-là qui a dominé tout le 17e siècle dans l'espace Akan. Et d'ailleurs, dans leur armée, en ce moment-là, eux, ils avaient, disons, trois unités, trois divisions. Il y avait l'avant-garde, l'aile droite et l'aile gauche. Mais eux, ils donnaient des noms différents à leurs unités. Ce n'est pas comme chez les autres Akan, on dit, Adontène, en avant, Nifahene, l'aile droite, Benkoum, l'aile gauche, Nifa, l'aile droite. Eux, ils avaient un autre vocabulaire pour désigner leurs unités militaires. Par exemple, l'avant-garde, ils appelaient ça Agona d'Intondom. C'est-à-dire les unités ou l'armée des Agonas. Cela veut dire que la guerre reposait d'abord sur les membres du clan royal. Parce que Agona d'Intondom, ça dit que l'armée des Agonas. Ah oui. Donc, pour eux, les batailles, la guerre reposait d'abord sur le clan royal. Ça, c'est clair. Maintenant, l'aile droite, ils appelaient ça Akumatire. Et puis l'aile gauche, ils appelaient ça Tchérefem. Important parce que c'est à coup ça, il y a un dicton chez les Akan qui dit quoi? Que si le noble lui-même ne se bat pas, le serviteur ne se bat pas pour lui. Il dit, on déchire en coin, à quoi gagner? Si le noble lui-même ne se bat pas là, le serviteur fuit. Donc, le noble lui-même, il doit être au devant du combat. Donc, c'était d'abord, la guerre reposait d'abord sur les membres du clan royal. Ça a été le peuple vraiment qui a dominé le 17e siècle à Akan. Et ça, c'est vraiment, c'est Pinango, c'est des gens courageux, très courageux. On le voit dans l'attitude des Pinango qui disent, mais Nana, si les Ashanti viennent, pour qu'ils puissent s'approcher de toi là, d'abord ils vont nous tuer, ils vont nous brûler d'abord avant d'avoir accès à toi. Sinon, s'ils nous ont pas brûlé, ils pourront pas avoir accès à toi. Donc c'était ça un peu l'idée des Dendira. D'ailleurs, les Mansi qui se sont installés dans le Doma, c'était les Dendira.
On va terminer cette partie de cette émission. On a parlé de l'Ashanti, de la Confédération Ashanti. On a parlé de la puissante armée de Dendira. qui en fin de compte est tombé complètement. Alors, comment ça se passe maintenant? Ces deux armées différentes, le Dankira a disparu complètement ou bien?
Non. Aujourd'hui, le roi du Dankira existe. Le royaume du Dankira est là. Mais c'est un peu scindé en Dankira Nord et Dankira Sud. Pourquoi? Ceux qui sont restés le long du fleuve Ofé vont former ce qu'on appelle le Dankira Nord. Puis maintenant, quand le roi Kwadjo et Tibou sentait que le roi des Ashanti n'était pas très content de la montée en la puissance militaire d'Ankira, lui, il est descendu plus au sud, presque en pays Fanti, si vous voulez, sur les territoires Fanti, où il a installé la nouvelle capitale qui est Djoukwa. Djoukwa, ça veut dire la paix seulement. Djoukwa, la paix seulement. Qu'il ne faut pas confondre avec Dunkwa, qui est encore une autre localité des Dankira, mais qui, lui, est dans le Dankira Nord. Donc, il y a Dunkwa dans le Dankira Nord, et puis il y a Djoukwa dans le Dankira Sud. Tout cela, ils obéissent au roi du Dankira. Ils obéissent au roi du Dankira. Et souvent, le nom qu'ils prennent beaucoup, c'est souvent ils rappellent le nom du roi Boa Aponsem. Le Dankira existe encore. Et donc, c'est vraiment un peuple qui est vraiment vaillant, qui s'est dispersé dans tout le Monacan et qui a dominé le Monacan durant tout le XVIIe siècle. D'ailleurs, les membres du clan Aguna sont nombreux, par exemple, dans le Fanti. Mais là-bas, dans le Fanti, ce clan est appelé Anana. Donc, le clan Anana, c'est des gens qui sont nombreux, qui dirigent beaucoup de chefferies. Dirigent beaucoup de chefferies, même dans le Fanti. Mais dans le Dankira, il est appelé Aguna. Et ça, c'est le nom, je peux dire, le plus précis. Parce que quand on examine, par exemple, chez les Nzema, quand on parle des ancêtres, des membres du clan Bavilé chez les Nzema, on dit que l'aïeul, l'ancêtre femme la plus connue anciennement, c'est Neka Aguna. Mais comme je l'ai dit, chez les Dankira, c'est l'aïeul Ayekra Adebo qui a été justement celle qui a commencé, je peux dire, les prémices de la chefferie et du royaume d'Ankira. Donc vous voyez que là, ça a été une femme, ça a commencé par une femme, voilà.
Professeur Alou Kwame René, je ne peux que vous remercier. Auditeur de la Radio de la Paix, merci d'avoir écouté cette émission. Émission diffusée sur votre chaîne préférée les lundis à 15h10, les jeudis à 9h10. Professeur Alou Kwame René, comme je l'ai toujours promis, nous allons revenir puisque les portes sont toujours ouvertes et nous profitons de votre gentillesse toujours. Merci professeur, portez-vous bien. Et au revoir.
Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Coffier-Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde.